Europe 1.
Europe 1, la vie devant soi. Isabelle Quenin.
Bonjour et bienvenue à tous. On est ravis de vous retrouver pour une nouvelle édition de La Vie devant soi. Comme chaque jour, une heure, un thème. Et aujourd'hui, nous allons parler de notre intuition. Cette espèce de petit radar personnel que l'on a et qui nous envoie fréquemment des messages. Et parfois, on a tendance à faire la sourde oreille. Alors, faut-il les écouter, ces messages? Faut-il se laisser guider? En France, pays du cartésianisme, la raison a toujours raison. Et si, pour une fois, on lui donnait tort? On en parlera tout à l'heure avec nos invités. Alexis Campion, fondateur de l'Institut Iris, spécialiste, l'Institut spécialiste de l'intuition, et avec lui Marie-Estelle Couval, professeure d'intuition. Et puis on terminera l'émission avec celle dont le petit radar perso est définitivement bloqué sur le développement personnel. Anne Cazobon, bonjour Anne.
Bonjour Isabelle, bonjour à tous. Aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, je vous invite à soigner votre langage pour davantage vous respecter.
On dirait ma mère.
Reprendre votre pouvoir intérieur. Aujourd'hui, on va essayer d'arrêter de dire « il faut » et « je dois ».
Ah, je pensais aux mots un peu...
Aussi, si
d'accord.
Vous voulez, Isabelle.
Alors n'hésitez pas à nous suivre sur Europe1.fr, à suivre tous vos rendez-vous en direct ou encore en podcast et bien sûr à réagir. Les réseaux sociaux sont là pour ça, le hashtag LVDS ou encore sur Facebook. La vie devant soi du mardi, c'est parti.
La vie devant soi sur Europe 1.
Mais comme tous les après-midi, on commence par le à la une avec Elisabeth Assayag. Bonjour Elisabeth.
Bonjour Isabelle, bonjour à tous.
Et aujourd'hui, cette tendance que l'on a à rebaptiser certains postes de l'entreprise. Par exemple, on ne parle plus de ressources humaines désormais. Quand on recrute, on cherche un responsable du bonheur. Alors que faut-il en penser? Est-ce juste un titre pour se donner bonne conscience? Ou y a-t-il un réel changement dans la façon d'appréhender le bien-être des salariés? Elisabeth.
Eh bien, c'est arrivé il y a à peine 5 ans en France et il y en a à peine 150 qui se revendiquent comme tels sur LinkedIn. C'est le réseau social de recrutement. Et quand vous faites un tour sur les débouchés que l'on propose aux étudiants aujourd'hui, eh bien, vous trouvez le profil de responsable du bonheur en entreprise. Et la plupart du temps, c'est en anglais, hein, c'est « Chief Happiness Officer ». C'est beaucoup plus glamour.
Non mais c'est sérieux, c'est pas sérieux. C'est vraiment un job ?
Non mais c'est très très sérieux. Hein. C'est une fonction qui est née dans la Silicon Valley. Hein. C'est la pépinière des start-up américaines. Et l'objectif, c'est de faire en sorte que les salariés arrivent au travail avec le sourire et surtout qu'ils gardent ce sourire. Parce que c'est prouvé, il y a bien un lien entre le niveau de bonheur déclaré dans son entreprise et la performance de l'entreprise. Plus on est heureux, enfin plus on a la satisfaction de travailler, plus l'entreprise a des chances de fonctionner. L'idée, c'est que l'on gomme petit à petit les hiérarchies entre les uns et les autres pour responsabiliser les salariés afin qu'ils donnent le meilleur d'eux-mêmes. Et c'est ce qu'il se passe, par exemple, dans l'entreprise Ineat. C'est une entreprise de services informatiques. Alizée est la responsable dédiée au bonheur depuis 3 ans et demi. Et écoutez ce qu'elle met en place pour rendre heureux ses 250 salariés.
Ça va être, bah, par exemple, mettre en place des paniers de fruits, mise en place d'entraînement sportif avec un kinésithérapeute et puis un coach personnel, des canapés, une Nintendo Switch, un baby-foot, salle de ping-pong. Enfin, l'entreprise est un lieu où on passe la majorité de notre temps. Donc il est important qu'on vienne dans l'entreprise comme si, en fait, dans un environnement où on se sent chez soi. On se sent bien, on se sent écouté, on peut se permettre un quart d'heure pour respirer, pour se défouler. On ne se sent pas forcément au travail, on se sent bien, on se sent chez soi et ça permet plus de productivité, ça c'est certain.
Alors, ce qui est quand même fou, Elisabeth, c'est qu'elle est responsable du bonheur,
ah oui.
Mais elle parle quand même de productivité,
évidemment.
Sous-entendez la rentabilité. En gros, t'es heureux, mais tu vas bosser plus.
Je ne dirais pas bosser plus, je dirais bosser mieux. Ça correspond surtout à une nouvelle attente des salariés qui ne veulent plus subir l'entreprise, notamment les trentenaires. Hein. Ils ne veulent plus faire les heures et partir. Ils recherchent avant tout, et les études le disent, la capacité de concilier vie privée et vie professionnelle. Hein. Aujourd'hui, la tendance, c'est plus on donne sans compter à sa boîte et du jour au lendemain, on se fait virer et on regrette. Non, aujourd'hui, c'est surtout on fait en sorte de bien travailler, mais de se sentir bien. Et justement, j'ai appelé l'ancien président de l'association des DRH de France, Jean-Christophe Sibéras. Et vous allez l'entendre, pour lui, l'augmentation des syndromes d'épuisement professionnel, hein, les fameux burn-out, et le bien-être en entreprise, ben finalement, ils ne sont pas si contradictoires.
je crois que l'important, c'est pas tellement les titres, c'est que derrière les titres, il y a des réalités. Ce soit pas de la com, ce soit pas des plaquettes de pub. Et je crois que ce qui compte, c'est au-delà des termes qu'on affiche, c'est de regarder, ok, il y a un chief happiness officer ou un responsable du bonheur ou du bien-être. Bah, maintenant, dites-nous ce que vous faites. Pratiquement, une entreprise a pris conscience de ça, qu'il y a des problèmes de souffrance, de difficultés. Eh bien, quand elle s'attaque au bien-être au travail, c'est justement pour créer une dynamique, une action dans l'entreprise, une action collective décidée par l'entreprise pour remédier à ces problèmes qui sont identifiés. Donc, je pense que c'est pas une contradiction, c'est plutôt on a un problème, il faut trouver une solution.
D'ailleurs, l'une des premières entreprises qui a recruté des responsables du bonheur, c'était Google, justement, dans la Silicon Valley. Et on connaît tous le succès planétaire de Google.
Bah, nous aussi, on a des corbeilles de fruits.
Mais hein. Oui, et du café,
c'est donc un début.
Du thé et des viennoiseries. Donc tout va bien.
Merci Elisabeth, on se retrouve demain pour un nouveau à la une. Dans un instant, on va parler intuition, on va parler sixième sens. Faut-il les écouter? Faut-il les suivre? Comme cette petite voix qui vous invite à tout plaquer pour faire le tour du monde en voilier. Alors, on la suit ou pas?
La vie devant soi sur Europe 1. La vie devant soi sur Europe 1. Isabelle Quenin.
Cet après-midi dans La Vie Devant Soi, on parle de notre intuition, de notre sixième sens. Sont-ils bons à suivre? Sont-ils de bons guides? On en parle avec nos invités, Alexis Champion, fondateur de l'Institut de formation sur l'intuition, IRIS, et avec vous, l'une de vos professeurs, formatrice en intuition. Ça, c'est un joli job, Marie-Estelle Couval. Première question, Alexis, quand on essaye de définir l'intuition, c'est difficile parce qu'elle est souvent définie par ce qu'elle n'est pas. C'est un message qui nous vient sans analyse, sans calcul, par rapport à un raisonnement en fait.
Oui, alors bonjour Isabelle. Oui, dans le dictionnaire, quand on regarde la définition de l'intuition, que ce soit les dictionnaires déjà au 19e siècle et aujourd'hui, le Larousse, etc., la définition, elle est effectivement en opposition par rapport à quelque chose et c'est par rapport au raisonnement. Et la définition de l'intuition, elle est simple, somme toute, c'est capacité à obtenir une connaissance, donc de l'information par du ressenti ou dans la tête, on va dire, sans que cette information soit du raisonnement. Donc c'est le contraire du raisonnement, c'est une information non raisonnée et qui est, alors c'est important, hein, c'est une connaissance immédiate de la vérité non raisonnée. Donc c'est une connaissance, c'est vrai, mais c'est issu de quelque chose qui n'est pas de l'analyse.
C'est un mode d'accès particulier à l'information, quelque chose qu'on a à l'intérieur de nous, mais on ne sait même pas qu'on l'a en stock.
Oui, alors, vous dites déjà beaucoup de choses. Parce que l'intuition, c'est quelque chose qui est fondamental, c'est constitutif de l'être humain, on va dire. Et ça tourne, ça fonctionne en continu. Mais par contre, c'est implicite la plupart du temps, c'est inconscient. Et parfois, ça va percuter en haut, j'ai envie de dire, et on va prendre conscience. Néanmoins, on peut, à partir du moment où on sait à peu près comment ça fonctionne, on va pouvoir convoquer et appeler cette intuition avec des questions pour avoir des réponses.
L'intuition a parfois mauvaise réputation parce que dans le langage courant, l'intuition, c'est souvent une qualité féminine. C'est un côté un peu péjoratif, un peu réducteur. En gros, l'intuition, ce serait un truc de bonne femme.
Oui, Marie-Estelle, elle va répondre.
Marie-Estelle, c'est un petit peu ce que l'on entend. C'est ça, non mais voilà, c'est ça.
L'intuition est particulièrement réservée aux femmes. En fait, c'est une intelligence qu'on a réservée bizarrement juste aux femmes. Et on a réservé aux hommes l'intuition rationnelle, l'intuition analytique. Je crois que c'est vraiment une belle théorie du genre, hein, qui ne repose sur aucun fondement. Parce que, à moins que Steve Jobs, Einstein, Graham Bell ne soient pas de sexe masculin, ils avaient beaucoup d'intuition. Donc l'intuition n'est pas réservée qu'aux femmes, il y a des hommes très intuitifs également, beaucoup. Et en fait, ça, c'est issu de... On assimile en fait l'intelligence émotionnelle aux femmes. On dit que les femmes sont plus sensibles, qu'elles sont plus sujettes aux émotions. Et on lie très souvent l'intelligence émotionnelle à l'intelligence intuitive. Du coup, il y a cette confusion qui se fait, et ce qui explique ce mythe que l'intuition est purement féminine ou avant tout féminine. Ouais.
Est-ce qu'on se rapproche du domaine de la voyance?
Oui et non. Si on regarde les définitions, la voyance, ça va se rapprocher de l'intuition. Si on regarde vraiment à la loupe, la capacité de voyance, hein, je ne parle pas du métier, mais la capacité de voyance, si on est vraiment dans la voyance qui marche, etc., on va être dans une sous-catégorie de ce qu'est l'intuition, qui est quelque chose de beaucoup plus vaste et qui va passer fondamentalement par le corporel, le physiologique, et qui va aller aussi au cognitif. Donc la voyance, c'est une partie, enfin On peut dire ça comme ça, c'est pas exact tout à fait ce que je dis, mais ça permet de prendre un peu conscience des choses.
Est-ce que nous avons tous cette capacité à avoir un sixième sens de l'intuition? Est-ce qu'on a tous cette petite voix, ce petit radar dont on parlait tout à l'heure, qui nous donne des informations, et ceux qui n'en ont pas, est-ce parce qu'ils se censurent, en fait?
Oui, en fait, c'est une capacité du vivant, notamment de l'être humain. Donc nous avons tous de l'intuition et ça se mesure, c'est facile, on en parlera probablement tout à l'heure. Il y a des milliers d'expériences qui montrent que voilà, on a. Et effectivement, quand on va se dire on n'en a pas ou quand quelqu'un se dit pas intuitif, etc., c'est parce que il y a des filtres et senseurs et déjà parce qu'il y a cette croyance, c'est un filtre, qui se dit ben j'en ai pas. Donc si on se dit qu'on n'en a pas et qu'on a cette croyance, automatiquement ça va faire rideau, quoi. Voilà, c'est comme quand quelqu'un va se dire ah mais moi je suis pas intelligent ou moi je sais pas jouer à tel ou tel sport ou je sais pas jouer de la musique, automatiquement ça handicape dès le départ.
Côté intuition, c'est un petit peu comme pour tout, Marie-Estelle Couval, on peut faire ses gammes, on peut travailler sur son intuition, on peut la muscler en fait.
Oui, c'est comme effectivement l'image, la métaphore est belle, c'est comme un muscle, plus on va solliciter son intuition et plus cet outil va être performant. Alors là, on rentre aussi dans le vif du sujet, c'est que l'intuition peut se développer. C'est une capacité qu'on a tous et qu'après, on peut la travailler. Alors avec des outils particuliers, le déroulé d'une méthode particulière qu'on applique au sein de notre école. Et du phénomène, à la base, l'intuition est un phénomène spontané. C'est-à-dire que c'est une information, on a l'habitude de dire qu'elle est spontanée, qu'elle tombe du ciel, que c'est comme un cadeau qui tombe du ciel et on ne contrôle pas ce phénomène. Alors ce qu'on sait moins, c'est que ce phénomène-là, intuitif, peut être provoqué, peut être sollicité de manière volontaire, c'est-à-dire en se posant des questions, en déroulant toute une sensorialité, toute une méthodologie, pour travailler cette intuition et pour muscler, pour acquérir la compétence, en fait. On a une capacité et on peut ensuite développer cette compétence intuitive. Ouais.
De plus en plus de scientifiques, de chercheurs se sont intéressés à l'intuition et au sixième sens. On est en 1998, l'expérience du jeu de cartes d'Antonio Damasio. Ça, je trouve ça absolument génial. Je crois que c'était dans l'Iowa. 16 personnes étaient face à 4 jeux de cartes retournées. Chacune des 16 personnes avait reçu l'équivalent de $2000. Donc ça veut dire qu'on avait intéressé la partie et on leur distribue les cartes. On a mesuré, bien sûr, pendant le même temps, imagerie de leur cerveau. Alors, évidemment, dans les 4 jeux de cartes, il y avait autant de bonnes cartes que de mauvaises. Ça n'avait pas été truqué. Lorsqu'ils tirent une carte bonne, on s'est rendu compte que le cerveau du patient, avant même qu'il ait retourné la carte, on se rendait compte que le cerveau du patient se colorait en positif. Donc il était content, c'était la récompense, il allait pouvoir garder ses sous et il avait une bonne carte. Et en revanche, alors qu'il ne connaissait pas la carte qu'on allait lui donner, puisqu'elle était cachée, quand c'était une mauvaise carte, son système, son cerveau s'affolait. Comment vous expliquez ça? Puisqu'il n'avait pas vu la carte.
Alors le comment, on pourrait...
Là, on a 2 heures devant nous. Ouais. Comment notre corps a la perception de quelque chose qu'il ne voit pas?
Oui, c'est-à-dire qu'il y a dans cette expérience, c'est un classique. Ça a été montré d'ailleurs, pas seulement au niveau du cerveau, ça a été montré au niveau de chaque organe et fonction physiologique du corps. C'est-à-dire qu'au niveau de la peau, par exemple, on va transpirer plus ou moins en fonction du type de carte. Ou alors, l'œil, tac-tac, ça va s'ouvrir ou se fermer plus en fonction du type de carte.
Alors qu'on ne la connaît pas, la carte.
Bien sûr, c'est ça.
On précise bien, on ne l'a pas vu du tout.
Pourquoi? Parce que quand on veut étudier l'intuition, on veut surtout éviter qu'il y ait du raisonnement. Et donc, on va éviter que la personne qui fait le jeu ou le test puisse analyser la situation. Donc elle est complètement en aveugle par rapport à la situation donnée, d'où les cartes retournées par exemple. Oui. Néanmoins, effectivement, on observe qu'il y a une information qui est valide, qui est obtenue, qui est manifestée dans le corps, et je répète, dans l'ensemble du corps.
Tous nos organes réagissent.
Voilà. Et comment ça se fait? Là, il y a un mystère en partie. Alors, il faut s'intéresser, si on va vraiment gratter jusqu'au bout, on va aller s'intéresser à la physique théorique. Et puis, au niveau physiologique, au niveau cognitif, ça montre qu'il se passe quelque chose. Et fondamentalement, ce qui va être montré au niveau de la personne, c'est qu'il y a du ressenti et du mouvement réflexe qui va se déclencher en premier lieu. C'est-à-dire que c'est l'intuition. Fondamentalement, c'est quelque chose qui est réflexe, c'est-à-dire que, vu que ce n'est en raisonné, et on va avoir y mettre une intention, par exemple, tiens, je prends une carte, elle est de quel type, ça va déclencher une information retour qui est de l'ordre réflexe, et ça va par exemple déclencher l'ouverture et la fermeture des pores de la peau, d'où le fait qu'on va transpirer plus ou moins. Alors, on sait qu'à l'intérieur de nous, ça va fonctionner de cette manière. C'est-à-dire, on va avoir des micro ou macro mouvements réflexes et ça va nous donner donc du ressenti. D'où aussi, on peut faire le lien avec le ressenti des tripes où là, c'est l'estomac et les intestins qui vont se contracter, décontracter rapidement. Par ailleurs, ça ne répond pas tout à fait à votre question, effectivement,
non,
parce que...
parce qu'on ne sait pas si la carte, elle est bonne ou elle est mauvaise.
Mais on le sait. C'est-à-dire que la personne, vu qu'elle manifeste cette information, elle le sait quelque part.
Mais elle le sait sans l'avoir vue. Elle
a... Oui, donc elle le sait.
C'est sa petite voix qui lui dit.
Voilà, c'est son corps qui réagit.
Qui parle. C'est le corps qui
donc
parle.
Donc elle le sait, mais sans analyser. C'est-à-dire,
alors voilà, vous allez voir que se fier à son sixième sens, visiblement comme pour les cartes, ça marche. Encore faut-il être sûr que c'est lui qui se manifeste, parce que parfois le piège, c'est qu'on a tous tendance à prendre nos désirs pour des réalités. Well, since my baby left me, well, I found a new place to dwell. Well, it's down at the end of Lonely Street, that heartbreak hotel where I'll be. I'll be just a lonely baby. Well, I'm so lonely. I'll be just so lonely, I could die. Although it's always crowded, you still can find some room for broken-hearted lovers to cry there in the gloom. I'll be just so lonely, baby. I'll be just so lonely. I'll be so lonely, they could die. Tears keep flowing, the desk clerk's dressed in black. Well, they've been so long on the street, they'll never, they'll never look back and think you're so, think you're so lonely, baby. Well, they're so lonely, well, they're so lonely, and they could die. Well, if your baby leaves you, you've got a tale to tell. Well, just take a walk down the street to Heartbreak Hotel, where you will be. You're so lonely, baby. Well, you'll be lonely. You'll be so lonely, you could die. Elvis Presley sur Europe 1, c'était Heartbreak Hotel.
La vie devant soi, Isabelle Quenin sur Europe 1.
Et cet après-midi, on parle d'intuition et de sixième sens. Peut-on s'y fier ? On en parle avec Alexis Champion, fondateur de l'Institut Iris, donc Institut de formation sur l'intuition. Avec vous, Alexis, Marie-Estelle Couval, qui est l'un des professeurs, l'une des formatrices donc sur l'intuition. Alors, il y a un autre exemple, moi, qui m'a vraiment frappé. C'est l'exemple du financier milliardaire américain George Soros. Alors, lui, il fait des placements d'argent tout le temps. Il dit que la plupart du temps, il fait ça d'une façon complètement irrationnelle. Parce qu'il s'est rendu compte que les résultats étaient aussi bons que quand c'était ses analystes. Sauf que, quand il fait un mauvais placement, avant même qu'il le sache, il ressent des douleurs aiguës dans son dos. Donc là, c'est son corps, là aussi, qui l'avertit.
Oui, c'est le corps qui parle. Et ça, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. C'est l'intuition, elle est fondamentalement liée au physiologique, liée au corporel. Et donc c'est du mouvement réflexe en fait, c'est-à-dire qu'il est dans ce cas-là, George Soros, ça l'informe que ça va pas, ne fait pas, et c'est pas contrôlé, ça vient tout seul. Et lui, comme il sait que quand ça lui arrive, ça veut dire ça, il a sa convention personnelle, et donc il va pouvoir décoder. Et chacun peut avoir sa manière de manifester et va pouvoir décoder. Et on peut même aussi se dire, tiens, moi je voudrais décoder de telle ou telle manière, et ça va se manifester de cette manière.
Mais quand on décide de faire ça, c'est donc une décision, c'est donc raisonné. On dit que je ne veux plus avoir la boule au ventre comme preuve d'un détecteur de messages. C'est-à-dire que si mon inconscient me parle, s'il y a un malaise, j'ai la boule au ventre. La boule au ventre, c'est très handicapant, je n'en veux pas. Je voudrais que ce soit autre chose, que mon corps m'envoie un autre signal. Mais est-ce qu'on peut agir sur son intuition, puisque ce n'est pas raisonné?
L'information, l'intuition elle-même, elle est non raisonnée. Par contre, l'usage qu'on en fait, il est raisonné, lui. C'est-à-dire que quand George Soros, par exemple, se dit « Tiens, j'ai mal au dos, ça veut dire ceci ou cela », c'est bien un raisonnement par rapport au message intuitif. Mais le message intuitif, lui, il est non raisonné par nature.
Il a, en fait, ouais, dans l'exemple de Georges Soros, il a, je pense aussi, avec l'expérience, il est, je pense que c'est un homme aussi qui est attentif à ce que son corps lui dit. C'est-à-dire quelqu'un qui a remarqué, qui est attentif à ce que son corps lui exprime. Donc, à partir du moment où il a mal au dos et qu'il est en situation justement de négociation et qu'il a le feedback après, en fait, la réponse, il peut croiser cette réponse en disant « Ah, mais j'avais mal au dos, parce que je sais maintenant pourquoi j'avais mal au dos. » Et au fur et à mesure, ça lui permet aussi de créer cette convention-là et de se connaître lui, de se connaître aussi bien dans son corps, comment son corps s'exprime et ce qu'il exprime, quelle est l'information que le corps exprime, pour ensuite l'utiliser de manière rationnelle. Donc, on a à la fois l'intuition, l'information intuitive et ensuite l'application, l'application qui, elle, est complètement contrôlée et rationnelle. Et c'est d'ailleurs ça qui fait le succès des hommes d'entreprise, enfin de ces grands hommes qui ont réussi ou des cadres, des chefs d'entreprise, c'est qu'ils associent, alors ils ne le reconnaissent pas forcément, ils utilisent, ce sont de grands intuitifs, ils utilisent leur intuition pour prendre des décisions dans des situations complexes. Et l'association de l'intuition et du rationnel, qu'ils font à merveille, leur permet justement d'être dans une situation de particulière de réussite.
Donc, d'être sûr de leur décision.
Oui. C'est vraiment l'outil complémentaire. L'intuition, le rationnel et l'intuition sont complémentaires dans cette réussite-là de ces hommes-là. Oui, tout à fait.
Alors, prendre une décision à la suite d'une analyse, bien sûr, ça prend du temps. C'est pas de l'intuition parce que l'intuition, elle se caractérise par sa fulgurance.
Oui.
Tout à coup, plaf, ça nous tombe dessus.
C'est exactement ça. En plus, c'est la définition qu'on trouve dans tous les dictionnaires. C'est ce qui caractérise l'intuition, c'est une information immédiate. C'est-à-dire qu'elle arrive de manière soudaine, subite. Alors que le raisonnement, lui, prend du temps. C'est-à-dire qu'on va apprendre l'information A plus l'information B, ça va donner une information C. Tout ça, ça nécessite un traitement analytique, un traitement de raisonnement. Donc forcément, on est dans du temps. L'intuition, elle est hors du temps. Elle ne s'appuie pas sur les raisonnements. Elle est hors. Ce n'est pas une information qui provient de la réflexion. Elle est hors du temps. Elle ne dépend pas du temps. Elle est ici et maintenant. Donc elle est fulgurante. Elle est immédiate.
On a deux pièges à déjouer. Le premier de ces pièges, c'est prendre ses désirs pour des réalités. Prendre ses désirs, l'envie que l'on a, et confondre ça, comme je le disais, avec la petite voix qui nous dit qu'est-ce que ce serait bien si on plaquait tout pour faire le tour du monde à la voile.
Oui, alors voilà, après, dans l'intuition, tout l'intérêt aussi de l'intuition, c'est non seulement de la solliciter, mais c'est aussi de la reconnaître. Et donc là, on est dans la reconnaissance de l'intuition. Qu'est-ce qui est de l'intuition et qu'est-ce qui n'en est pas ? L'intuition, elle a beaucoup de faux amis. On les appelle comme ça parce que on confond souvent l'intuition avec d'autres notions. Alors dans ces notions-là, dans ces pièges-là de faux amis, on a tout ce qui relève du désir, donc de l'émotion, de ce que l'on souhaiterait, de ce que l'on désirait pas, de nos peurs, de nos phobies. Mais aussi, comme faux amis, on a aussi tout ce qui est projection, a priori, interprétation, et ça va loin. Donc il y a de nombreux pièges, sachant qu'on est, on a 60 000 pensées par jour, il faut arriver effectivement à faire la part des choses entre intuition, entre ce que c'est que l'intuition, ce qui est de l'intuition et ce qui n'en est pas.
Dans un instant, on va se retrouver et on parlera de l'histoire de Sébastien, 67 ans, qui rencontre une femme parfaite, belle, drôle, sportive, aimante, sauf que il y a un petit clignotant qui s'allume dans sa tête, il ne l'a pas écouté et sa vie est devenue un enfer.
La vie devant soi sur Europe 1. La vie devant soi sur Europe 1. Isabelle Quenin.
Et on retrouve nos deux invités, Alexis Champion, fondateur de l'Institut de formation sur l'intuition Iris, et avec lui donc Marie-Estelle Couval, qui est professeure d'intuition. Et je dois dire que pendant la pub, l'émotion était vive dans le studio parce qu'on n'est pas du tout d'accord sur l'histoire de Sébastien, ou plutôt de sa lecture. Alors, je vous refais l'histoire, elle est vraie. Sébastien, 67 ans, il rencontre une femme, et la femme, sur le papier, je dirais, elle est parfaite. Même quand il la rencontre, c'est une femme qui est belle, qui est drôle, qui est sportive, qui partage tous ses centres d'intérêt. Enfin, donc tout va bien, elle est parfaite pour lui, sauf que dès le premier rendez-vous, dans sa tête, il y a le petit warning, là, il y a le petit clignotant qui s'installe. Il n'a pas écouté ce clignotant, il a continué, il a décidé de vivre avec elle. Donc la raison peut-être l'emporter sur l'intuition, et sa vie est devenue un enfer parce qu'en fait, elle s'est révélée être une femme d'une jalousie maladive. Enfin bref, elle lui a pourri la vie. Donc en fait, qu'est-ce qu'il aurait dû faire ?
Donc là, ce qui se passe, c'est qu'il y a effectivement un mélange d'analyse et d'émotionnel, c'est-à-dire que Sébastien il analyse la situation, il analyse la personne plus ou moins vite du raisonnement qui va être en partie inconscient extrêmement rapide, donc paf, et une partie du raisonnement qui va être conscient, et puis une volonté, du désir, etc. d'être avec cette personne. Et tout ça, ça va faire un mélange de pensées et de vécu corporel, etc. Et il y a aussi ce warning qui arrive en plus. Donc, c'est une autre information. Qui
donc, il est perdu, en fait. Il est dans la confusion totale. Ben,
il peut. Alors, ce qu'il y a, c'est qu'après, là, dans l'histoire que vous racontez, c'est qu'il va supprimer ce warning. On va dire, il va y aller quand même. Et puis, galère. Donc là, on peut présupposer, c'est très probable que ce warning, c'est une intuition qui dit tot, parce qu'effectivement, après coup, on sait que c'est vrai, que c'était un vrai warning. Donc là, bah, c'est le raisonnement et l'émotionnel qui a pris le pas, qui a caché, qui a étouffé ce ressenti intuitif.
Qu'est-ce qu'il faut faire ? Alors, quand on rencontre quelqu'un, on dit toujours que c'est la première impression qui est la bonne. Vrai ou pas ? Marie-Estelle ?
Alors, c'est compliqué parce que quand on rencontre quelqu'un, il y a tout un processus aussi. Quand on ne connaît pas la personne et qu'on parle à cette personne pour la première fois, qu'on la regarde pour la première fois, on a des perceptions. Et en fond de coulisses, notre cerveau enregistre toutes ces perceptions-là et les analyse. Sauf qu'on n'en a pas forcément conscience. Ces informations-là que le cerveau qu'on capte vont être analysées et surtout comparées à ce qu'on a vécu à d'autres rencontres, à d'autres personnes qui ont peut-être les mêmes yeux, les mêmes expressions ou la même voix. Et si ça s'est bien passé auparavant dans le passé avec ces personnes-là qui ont cette similarité, à ce moment-là, on va avoir peut-être un bon feeling ou un mauvais feeling en fonction de l'expérience vécue et de ce que nous renvoie en fait notre analyse. Mais tout ça, c'est un travail, c'est une analyse qui est très très rapide, qui est très fugace, qui est inconsciente. Donc on n'a pas du tout conscience de ça quand on est face à la personne. Donc les ressentis qu'on va avoir, le premier feeling, le corps qui parle, le cœur qui bat si la personne, si on est en phase avec cette personne, parce que notre cerveau, enfin notre analyse inconsciente nous dit « Ah mais en fait elle ressemble à telle personne que tu as connue dans le passé et ça s'est bien passé, donc voilà, je t'envoie un signal positif. » On est dans le raisonnement inconscient ultra rapide. Mais aussi, on peut avoir aussi une information intuitive. C'est le cas de Sébastien qui, lui, n'a pas écouté son intuition. Il n'a pas écouté ce signal, ce warning. Il voulait vraiment cette femme. Voilà. Et donc, il a complètement chanté l'intuition. Donc, on peut avoir à la fois, quand on rencontre une personne qu'on ne connaît pas, du raisonnement inconscient et aussi des informations intuitives. Et tout ça, c'est intrinsèquement mélangé, lié. Et c'est difficile à trier, en fait. Donc, on peut avoir les deux, ou tout seul, seul de l'intuition ou du raisonnement inconscient.
Ce que vous conseillez souvent, là, ce que j'ai pu lire, c'est quand on rencontre quelqu'un, quand on l'écoute parler, s'abstraire de son discours. C'est-à-dire se mettre en retrait, en position de recul, hein, l'observer. Et à ce moment-là, voir si cette observation de lui, ça nous fait, ou d'elle, ça nous fait ou plaisir, ou ça génère de la gêne, ou ça génère un malaise. Et donc là, faire confiance à ce ressenti que l'on a.
Alors, on peut, si on n'a pas... Alors, dans l'idéal, vraiment dans l'idéal, comme l'intuition est favorisée quand il n'y a pas du tout de raisonnement, puisque l'intuition, ce n'est pas du raisonnement, dans l'idéal, il ne faudrait même pas avoir cette personne devant nous. Donc, si on sait qu'on va rencontrer un inconnu, chez soi, avant de rencontrer cette personne, on peut demander à notre intuition, tiens, dis-moi des choses sur cet inconnu. Qu'est-ce qui se passe dans mon corps quand je pense à cette rencontre-là ? Pourquoi ? Parce que là, on n'a pas encore devant nous la personne qui nous envoie des signaux. Donc notre cerveau, notre analyse, notre aspirationnel ne peut pas manger ces petites perceptions, ne peut pas les analyser et donc ne peut pas travailler. Il est en aveugle.
Sauf
et c'est
que
dans
quand
ces situations-là où l'intuition vraiment va émerger. Donc dans l'idéal, il faudrait surtout ne pas voir la personne avant, commencer à solliciter son intuition.
Là, ça commence à être compliqué.
Et oui, ouais. Mais est complètement dans des circonstances qui favorisent l'émergence de l'intuition. Quand on est...
Sauf que quand on va rencontrer quelqu'un pour la première fois, imaginons le premier rendez-vous, une première rencontre. Bon, on va y aller, mais on n'y va pas tout seul. C'est qu'on va à cette première rencontre avec tout notre vécu. C'est-à-dire, on va y aller en se disant, mais de toute façon, ça ne marchera jamais, il ne va pas me trouver assez bien pour lui. Donc là, on est déjà pollué. Donc on n'a plus la place. Il n'y a plus de place pour l'intuition, tellement on a de trucs dans notre sac à dos.
C'est ça, en fait, l'ennemi de l'intuition, c'est le mental. C'est les filtres, on appelle ça des filtres du parasitage. C'est tout ce que le mental nous renvoie en fonction de notre vécu, en fonction de nos désirs, en fonction de nos projections, en fonction de nos attentes vis-à-vis d'une rencontre amoureuse, on a vraiment beaucoup de biais par rapport au fait de reconnaître son intuition, de l'écouter et de la suivre. Et c'est arriver à faire abstraction de son mental dans ce cas-là, dans le cas de la rencontre, si on n'a pas le choix, et c'est de retravailler, d'être attentif à ce qui se passe dans son corps en faisant fi du mental. Donc c'est Après, il y a des outils particuliers, des respirations, de la relaxation, de la sophrologie, qui peuvent aider justement à rentrer plus à l'intérieur de soi-même et d'avoir une sorte de distanciation entre ce qu'on observe, les perceptions et l'analyse, et ce que le corps nous dit, aussi bien au niveau corporel qu'au niveau cognitif, en termes de pensée intuitive.
Alors, ça tombe très bien, puisqu'en préparant cette émission, vous m'avez dit, est-ce qu'on peut faire des exercices pour faire travailler l'intuition ? Eh bien, c'est ce qu'on va faire.
La vie devant soi sur Europe 1.
La vie devant soi sur Europe 1. Isabelle Quenin.
Et on est toujours en train de parler d'intuition, de sixième sens avec nos invités Alexis Champion et Marie-Estelle Couval. Alors, exercice. Vous avez dit qu'on pouvait travailler, développer son intuition. Qu'est-ce qu'on peut faire ?
Alors, tout à l'heure, nous avons parlé de l'expérience Descartes de Damasio. Oui. On peut faire la même chose, mais en allant un petit peu plus loin. C'est-à-dire, par exemple, Isabelle et puis les auditeurs et auditrices, c'est simplement déjà de vous dire, Marie-Estelle, elle a un objet mystère dans sa poche. Et qu'est-ce qui vous vient à l'esprit là tout de suite ?
Des clés.
Okay. Donc là, c'est typiquement ce qui va se passer, c'est-à-dire c'est l'intellect qui va vouloir deviner. C'est-à-dire qu'il y a une analyse ultra rapide qui se fait. Ok, alors la poche de Marie-Estelle, elle a à peu près telle taille. Et puis, Marie-Estelle, qu'est-ce qu'on va se mettre d'habitude dans une poche ? Marie-Estelle, elle est un peu comme tout le monde, a priori. Donc, elle va mettre tel ou tel type d'objet. Oui. Donc, c'est probablement des clés. Hop, ça se fait hyper vite. Et ça, c'est du raisonnement. Et, ben non, ce ne sont pas des clés. C'est autre chose. Donc, comment on va déclencher des perceptions intuitives après avoir mis de côté cette première idée raisonnée ? On va la mettre de côté, tout simplement, parce que généralement, ça va être faux. Ok ? Et on va simplement se poser la question. Au niveau corporel, okay, cet objet mystère, ben il est comment ? Par exemple, quand vous le touchez, vous pouvez le faire chez vous, hein, tout le monde, quand vous touchez cet objet mystère que Marie-Estelle a, ben ça fait comment au niveau de la texture sur la paume de la main ?
Là, vous m'avez un peu perdu. C'est-à-dire
quand vous touchez cet objet,
que je ne connais pas, oui. Et je ne sais pas ce que c'est.
Tout à l'heure,
ça peut être un bouchon de champagne.
On s'en fiche de ce que c'est.
Un ours en peluche.
On s'en fiche.
D'accord, on s'en fiche.
Ce qui nous intéresse, c'est comment il est. Okay, comment il est ? Quand on va toucher, tout à l'heure vous allez avoir cet objet mystère, quand vous le touchez, ça fait comment ?
Rugueux.
Quand vous écoutez, s'il y a du son, ça fait comment ? Dites ce qui vient, première chose qui vient.
Un bruit mat.
Okay. Quand vous sentez, quand vous respirez, ça fait comment ?
Fleuri.
Quand vous regardez au niveau de la couleur, là où les couleurs qui vous viennent à l'esprit, c'est comment ?
Du bois et du verre.
Ok. Quand
Marie-Estelle a un bouquet de fleurs dans sa poche.
Donc ça, c'est encore une autre déduction.
Oui, effectivement.
Et on met de côté. Et en fait, l'intérêt, c'est d'aller non pas chercher qu'est-ce que c'est, parce que ça va convoquer notre raisonnement, okay, qui va vouloir étiqueter directement une conclusion. Tandis que si on va aller chercher notre intuition, et ben en fait, on va aller amener des petites pièces de puzzle qui sont physiologiques, sensorielles. Donc on va aller interroger nos cinq sens et on va aller amener comme ça des petites pièces de puzzle qui, au final, vont constituer le puzzle. Et après, à la fin, on saura ce que c'est. Voilà. Et il faut s'ouvrir, avoir confiance en soi. Il faut s'écouter. Il faut y aller, il faut lâcher prise. Et puis, on va faire ça 1, 2, 3, 4, 5, 10 fois. Et au bout d'un moment, eh bien, on va se rendre compte que, ah oui, ça fonctionne. Voilà. Donc, je laisse Marie-Estelle vous montrer et vous dire et vous faire entendre l'objet mystère.
Je précise que Marie-Estelle, vous avez des poches dans votre jean, donc assise sur l'objet mystère, donc je n'avais aucun moyen de savoir.
Non, pas du tout. En plus, c'est la poche arrière, donc c'était un petit.
Un stabilo boss.
Alors, on peut voir à l'intérieur, effectivement, dans les couleurs, il y a du jaune, du noir.
Donc il y a du jaune et du noir, il n'y a pas du tout du marron et du.
Non, pas de bois, mais le bois, c'est pas un.
Mais franchement, sur un exercice comme ça, ce serait plutôt, à la limite, c'est Houdini, c'est de la voyance. Si j'arrive à trouver que vous avez un stabilo boss dans votre poche, j'arrête la radio, je fais autre chose. Parce que c'est quand même improbable. Comment voulez-vous que je trouve qu'elle a un stabilo boss dans sa poche ?
Mais c'est exactement la même expérience que Damasio, c'est la même chose. C'est-à-dire que nous savons inconsciemment, okay, on le sait. Pourquoi et comment on le sait, c'est en partie un grand mystère encore. Mais n'empêche que, scientifiquement, on montre que ça marche et qu'on peut l'utiliser pour peu qu'on s'entraîne. C'est comme tout. Plus on va s'entraîner et plus on va se faire confiance, mieux ça va marcher.
Alors bien sûr, il faut du temps aussi, parce que là, on n'a pas le temps de dérouler l'exercice. Quand on est en session, on appelle ça une session intuitive sur un objet, un lieu mystère. On prend 20 minutes à décrire l'objet juste en adjectifs et surtout en éliminant, en mettant de côté toutes les tentatives de devinettes. Hein. Oui. C'est un bouquet, c'est des clés, etc. Parce que tout ça, c'est de l'analyse. On reste dans de la description pure et dure, dans du sensoriel. C'est-à-dire qu'on va dérouler les cinq sens. Comment sont les couleurs au niveau visuel, les formes, les goûts, le toucher, etc. Ça fait partie d'une étape à dérouler dans la méthode. Il y en a d'autres, bien entendu. Il faut aussi du temps, il faut des conditions idéales aussi pour rentrer à l'intérieur de soi et choper, capter les informations qui nous viennent en tête. C'est pas forcément évident dans des conditions particulières de studio aussi. Mais voilà, c'est un tout petit aperçu de comment faire pour solliciter son intuition.
Alors pour ceux qui sont un petit peu sceptiques, puisque comme moi, ils n'ont pas trouvé que c'était un stabilo-boss jaune, il y a une expérience qui a été faite que l'on appelle le plus grand projet d'archéologie intuitive. On est en 1978, c'est le projet Alexandrie. Oui. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait ?
Alors ça, c'est un projet qui a duré 3-4 ans à l'époque, qui a été géré et mené par un chercheur américain qui s'appelle Stephen Schwartz. Et l'objectif du projet Alexandrie, alors c'était un gros projet, c'était multiple, mais notamment c'était de décrire et de localiser des sites sur Alexandrie, notamment la ville de Marea, c'est une ville antique. Les archéologues avaient cherché pendant des années cette ville, avaient creusé, analysé les documents, etc., et n'avaient pas trouvé. Et quand l'équipe de Schwartz est arrivée sur place, le responsable de l'archéologie d'Alexandrie de l'époque, qui était un Polonais, lui a demandé « Ok, localisez-moi une maison, comment est cette maison ?» etc. Et donc les gens qui sont arrivés sur place, qui étaient des professionnels de l'archéologie dite intuitive, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont bougé sur le terrain, et quand ils ont ressenti que c'était l'endroit où il y avait la maison recherchée ou une maison recherchée, et quand ils ont commencé à ressentir, eh bien ils se sont dit c'est là, et ensuite ils ont fait exactement le petit exercice qu'on a fait avec le stabilo, c'est-à-dire qu'ils se sont dit ok, c'est comment la texture, la dureté, c'est massif comment, cette maison au niveau des couleurs, au niveau des textures, quand je marche ça fait comment sous les pieds, etc. etc. Donc ils ont amené des informations, tout ça a été consigné, et puis les archéologues ensuite ont fait venir pelle et pelleteuse, ils ont creusé, et la maison était bien là, et elle était comme était dit par les intuitifs.
Alors, ce qui est extraordinaire, c'est que dans ce projet, il fallait localiser 5 sites, oui. Que les 11 intuitifs qu'on avait mis ensemble, leurs recherches ont amené à la découverte de 4 sites sur 5, oui. Alors que par des méthodes plus scientifiques de localisation, on n'avait trouvé qu'un seul site sur les 5.
Alors, précisons, c'est scientifique aussi, parce qu'il y a des protocoles, etc. Mais effectivement, l'information première, l'essence de l'information première n'est pas issue de l'analyse du rationnel, elle est irrationnelle, non raisonnée.
Oui. Les 11 intuitifs ont fait mieux que les machines.
C'est ça.
La vie devant soi sur Europe 1. La vie devant soi sur Europe 1. Isabelle Quenin.
Et on est une dernière fois avec Marie-Estelle Couval et Alexis Champion, donc le fondateur de l'Institut Iris. Qui vient vous voir ? On s'occupe de quoi dans cet institut ?
Alors, on forme des personnes et aussi, effectivement, on a des activités de conseil pour notamment des archéologues, ça nous arrive, qui veulent des informations plus sur des objets qu'ils ont déjà trouvés, mais il leur manque des informations où localiser. On intervient dans tout type de domaine, ça peut être du judiciaire pour la police, ça peut être des entreprises, de la créativité, de l'innovation, de l'aide à la décision, de l'investissement, dans tout domaine, du bancaire, des
vous
PME,
êtes
de l'industrie.
Un outil de décision. En fait, quelqu'un vient vous voir en disant j'ai fait toutes les analyses, voilà, je suis arrivé à ce résultat, est-ce que j'ai raison ou pas ?
Alors,
est-ce qu'on peut être intuitif pour l'autre ? Est-ce que vous êtes capable ?
Oui, c'est même favorisant, puisque moins on va en savoir sur le sujet, plus ça va faciliter la prise de conscience de nos intuitions. Parce que si on est bombardé, si on se charge d'informations en amont, on va raisonner, ça va être très difficile d'éviter de raisonner. Donc en fait, ces entreprises externalisent finalement une partie de leurs recherches, de décisions, sur des problématiques diverses et variées ou d'innovation. Et nous, on va faire ce travail pour elles et on va percevoir, l'idée c'est d'aller percevoir pour les décrire, amener le maximum d'informations supplémentaires et complémentaires par rapport à ce qu'elles font, à ce qu'elles ont déjà fait sur leur problématique à elles.
Est-ce qu'il vous arrive de vous planter ?
Probablement. Sur les statistiques, on va dire que dans ce qu'on fait, on est, ce que disent les clients, à peu près à 75-80% d'informations valides. Donc effectivement, il y a des choses qui ne sont pas justes et une bonne partie est pertinente.
Alors pour en savoir plus, rendez-vous donc sur le site de l'Institut Iris, l'Institut de l'Intuition. Merci Alexis Champion et merci Marie-Estelle Couval. Et n'oubliez pas votre stabilo-boss.
Non, c'est cadeau.
Merci.
Formidable, formidable, tu étais formidable, j'étais formidable, nous étions formidables, formidable, tu étais formidable, j'étais formidable, nous étions formidables, oh bébé. Oups, mademoiselle, je vais pas vous draguer. Promis, juré, je suis célibataire depuis hier, putain. Je peux pas faire d'enfant et bon, c'est pas... Hé, hey, reviens, 5 minutes, quoi. Je t'ai pas insulté, je suis poli, courtois et un peu fort bourré. Mais pour les mecs comme moi, vous avez autre chose à faire. Hein. M'auriez vu hier, j'étais formidable. Formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidables. Formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidables. Oh, tu t'es regardé, tu te crois beau parce que tu t'es marié. Mais c'est qu'un anneau, mec, t'emballe pas. Elle va te larguer comme elles le font chaque fois. Et puis l'autre fille, tu lui en as parlé. Si tu veux, je lui dis, comme ça c'est réglé. Et au petit aussi, enfin si vous en avez. Attends 3 ans, 7 ans et là vous verrez si c'est formidable. Formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidables. Formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidables. Hé, hey, petite, un pardon, petit. Tu sais, dans la vie, y'a ni méchant ni gentil. Si maman est chiante, c'est qu'elle a peur d'être mamie. Si papa trompe maman, c'est parce que maman vieillit, tiens. Pourquoi t'es tout rouge? Bah, reviens, gamin. Et qu'est-ce que vous avez tous à me regarder comme un singe, vous? Ah oui, vous êtes sains, vous. Bande de macaques, donnez-moi un bébé singe. Il sera formidable. Formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidables. Formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidables.
Stromae sur Europe 1, c'était formidable.
La vie devant soi, Isabelle Quenin sur Europe 1.
Et comme tous les jours, on termine l'émission avec sa chronique Antidote de développement personnel. Et avec vous, Anne Cazobon, une fois n'est pas coutume, surtout dans notre équipe, on va soigner notre vocabulaire.
Bah oui, aujourd'hui, chronique à l'ancienne, dans laquelle je revais mon tablier de vieille matrone pour vous laver la bouche au savon avec une brosse en bois. Je vous propose donc de vous écouter parler, parce que ce n'est pas tant les situations que la vie nous envoie qui pèsent dans nos vies, mais bien la manière dont nous les envisageons et dont nous les commentons. Oui, en 2018, je ne vous lâcherai pas d'une semaine sur votre manière de parler aux autres, ça c'est une chose, mais surtout à vous-même. Ne le prenez pas mal, je ne veux que votre bien et surtout que vous puissiez vous réaliser pleinement. Alors depuis ce matin, je suis toute oui. Faut que je réponde à son mail. Je dois absolument rappeler ce collègue. Il faut vraiment que je trouve une solution à ce problème. Je dois vraiment mieux m'organiser dans ma vie. Et non, il n'y a qu'à Faucon. Vous voyez comme on prend soin de nous? Vous voyez quelle couleur il a notre règlement intérieur? Oui, couleur cuir, Isabelle. Le pire, c'est que ces « il faut », ces « je dois » font tellement partie de nos automatismes de langage que bien souvent, on n'en a pas conscience. Sauf qu'à chaque fois que je les emploie, je me donne une obligation à moi-même. Oui, à chaque fois, je me donne un ordre. Ça vous rappelle quelque chose? Une coupe de cheveux bien dégagée derrière les oreilles? Les doigts sur la couture? Le lit fait au carré? Ah bah si, ça y est, on y est. Et c'est ainsi que vous vous parlez. Alors pour calmer le gros adjudant qui sommeille en chacun de nous, je vous invite à regarder très en face, ou plutôt à tendre l'oreille. Parce que si jamais vous ne réalisez pas ce « il faut que je perde 10 kilos » ou ce « je dois finir ce projet avant demain », vous savez ce que vous tartinez sur le corps? Une bonne couche de culpabilité, indice 2000.
Oui, mais enfin, c'est quand même hyper difficile de bannir complètement de notre langage. Il faut et je dois. Il faut faire plein de choses et on doit faire plein de choses.
C'est vrai. Ouais, alors, je vous invite d'abord à repérer ce qui pourrait faire obstacle dans votre dialogue intérieur. Où sont les murs que l'on se dresse tout seul, comme des grands, rien qu'avec les mots? Et peut-être, pour commencer, essayez de remplacer tous ces ordres par « je désire », par « je veux », histoire de remplacer ces mots qui enferment, ces verbes qui nous maintiennent dans notre prison intérieure, par des mots de liberté, « je veux », « je désire ». Regardez, ou plutôt écoutez la différence de vibration et même de vouloir dire entre « il faut que je passe mon permis de conduire » et « je veux passer mon permis de conduire ». Voyez comme d'un coup, vous reprenez votre pouvoir intérieur et vous évitez de le brader aux conventions sociales, à la pression de la société qui, selon vous, aimerait que vous ayez obtenu votre permis à l'âge que vous avez. Voyez comme d'un coup vous arrêtez de subir et reprenez votre responsabilité dans le fait que vous n'avez pas encore votre permis aujourd'hui. Autre exemple, vous dites « je dois passer à la banque ». On le dit tous, hein, « je dois repasser au boulot ». Dans ces cas-là, ce qui peut vous aider, c'est de vous demander « qui a dit cela ? Qui a dit « je dois passer à la banque » ?» La réponse est « personne », puisque c'est moi qui ai pris rendez-vous avec Madame Dupont. Dans ces cas-là, vous pouvez reformuler « je vais passer à la banque aujourd'hui, j'avais oublié mon rendez-vous ». La réalité, c'est que ces « il faut », ces « je dois » sont partout dans nos vies, mais lorsqu'on leur fait un petit croche-patte, en les reformulant, on gagne en liberté de mouvement dans nos mots et donc dans nos vies.
Je vais essayer dès cet après-midi, Anne. En fait, je désire rentrer tôt pour pouvoir remplir mon frigo.
Bien, bravo.
C'est mieux que « ah mince, faut encore que je fasse les courses ».
Bravo.
Merci à tous de nous avoir suivis. Merci Anne, on vous retrouve bien sûr demain. Et demain à 15h, on abordera un nouveau thème. Faire de ses échecs une opportunité. Faire d'une déception, qu'elle soit amoureuse ou encore professionnelle, le moyen de rebondir et surtout d'aller encore plus haut. On en parle demain dans La Vie Devant Soi à partir de 15h.